Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un garçon qui est assis là, en face de moi, et qui est doté d'une volonté absolument hors du commun. Bonjour Jonathan Druten.
Bonjour.
Quand vous étiez tout bébé, on vous a diagnostiqué une maladie mortelle, une mucoviscidose. Vous étiez donc condamné. On vous donnait 17 années d'espérance de vie. Et aujourd'hui, vous avez 34 ans et vous êtes là, assis en face de moi. Vous êtes même devenu un sportif de haut niveau puisque vous avez signé récemment un Ironman, et pas le moindre des Ironman, celui de Nice, qui consiste à enchaîner, je rappelle, un Ironman, un marathon en course à pied, 180 km en vélo et 3,8 km de natation. Pour en arriver là, vous êtes passé par une première greffe du poumon, puis une deuxième greffe cœur-poumon. Je vais raconter tout ça. Vous avez eu la chance d'être coaché dans la vie et aimé par un papa absolument unique qui a comblé la défaillance de votre maman. Vous racontez tout cela dans un livre qui paraît aux éditions Mareuil, Iron Man, d'où bien sûr j'ai tiré mon récit que voici. Je l'ai écrit avec Christophe Dumazer, la réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Le 4 septembre 1984, à l'hôpital de Clamart, c'est là que commence mon histoire. Un accouchement difficile, sans péridurale, il faut sortir les forceps et puis les ventouses. Ma mère hurle, ça dure des heures. Et puis, me voilà. Ma mère fond en larmes. Elle vient de mettre au monde son deuxième bébé. Et d'après ce qu'elle m'a raconté plus tard, elle remarque tout de suite que je suis pâle. Très pâle. Elle m'embrasse, elle trouve ma peau moite. Et avec ça, une drôle d'odeur. Son instinct maternel se met en mode alerte. Il y a quelque chose qui cloche.
Docteur ? Docteur, vous êtes sûr que tout va bien ? Il est tout blanc.
Mais oui, il va bien, ne soyez pas mère poule. Je découvre notre appartement, en banlieue parisienne, à Meudon-la-Forêt. Mon père est ingénieur chez Renault, ma mère hôtesse dans les aéroports. Ils sont tous les deux de Saint-Étienne. Des jours passent. J'ai la diarrhée tout le temps. Et puis la peau toujours aussi blanche et maintenant violacée à certains endroits. Et je les vois tous les deux au-dessus de mon berceau. Ils s'inquiètent, ma mère plus que mon père. Elle me met peau à peau avec elle. Je passe des heures nues sur sa poitrine. Il y a un truc qui va pas. Là-dessus, je fais une bronchiolite. Ma mère m'emmène direct aux urgences pédiatriques. Madame, une bronchiolite à cet âge-là, c'est sérieux. On va l'hospitaliser. Et ça dure. Et mon état s'aggrave tous les jours. Et au bout de 3 semaines, madame, monsieur, vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Voilà, nous avons pratiqué sur Jonathan le test qu'on appelle le test de la sueur. Votre fils est atteint d'une maladie génétique extrêmement rare, qui s'appelle la mucoviscidose. On est en 1984. Mes parents n'ont jamais entendu parler de la mucoviscidose. Et ils ne réalisent pas à quel point c'est grave. Dans l'immédiat, ces bronches-là sont très infectées. On va devoir lui administrer une forte dose d'antibiotiques, hein, disons 10 fois supérieure à la dose habituelle. Je dois vous dire qu'il y a un risque, mais si on ne fait rien, je ne suis pas certain de pouvoir le sauver. Il faut tout tenter. Mes parents rentrent à la maison. 1984, il n'y a pas Internet. Ma mère se jette sur l'encyclopédie. Mucoviscidose. Mucoviscidose, nom féminin, maladie héréditaire grave qui paralyse les organes vitaux, pouvant entraîner la mort. L'espérance de vie est de 17 ans. Elle s'écroule sur le canapé.
Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas bien mangé pendant ma grossesse. Je ne suis pas assez hydraté.
Ça n'a pas de sens. Mais c'est normal. Le lendemain matin, ils reviennent me voir, ils me trouvent sous une bulle à oxygène. Vitre hermétique, sondée, perfusée. Et l'infirmière qui dit
« C'est votre fils ? Profitez-en, il va bientôt mourir. »
Ma mère s'énerve, elle crie, elle pleure, elle peste contre cette femme qui lui parle sans tact. Dans mon berceau, il y a un bocal qui aspire le mucus, la saleté de mes poumons, verdâtre. L'encyclopédie dit que je peux vivre jusqu'à 17 ans. Mais à partir de maintenant, je peux mourir n'importe quand, maintenant ou dans un mois. Mes parents décident de quitter Paris. Mon père a grandi dans les monts du Forêt, près de Saint-Étienne. Il sacrifie sa carrière pour que je puisse respirer de l'air pur. Et donc on rentre à Saint-Étienne. Mes parents prennent une maison tout près de l'hôpital. Et ils ont du mal à convaincre un kiné. Un bébé comme moi, c'est très contraignant pour un kiné, c'est vrai. Il doit venir à domicile, me pratiquer des clappings, des petits coups comme ça, sur ma poitrine pour dégager mes bronches. Et c'est 7 jours sur 7, hein, jour et nuit, il doit être dispo. Mais il finit par accepter, il s'appelle Philippe Bessière, et il est resté avec moi, jusqu'au bout. Après quelques mois, ma mère commence à perdre pied. Elle a repris son travail, mais elle craque souvent. Elle pleure, elle crie. Elle n'arrive pas à faire face. Elle est trop fragile, maman. Et un jour, elle va se consoler dans les bras d'un homme qui n'est pas mon père. Elle fuit son quotidien, en vérité. Ma maladie. Mais mon père ne lui pardonne pas. Et un matin, ma maman laisse une lettre sur la table de la cuisine. Elle n'assume plus. Elle capitule. Et elle nous laisse seuls, ma sœur et moi, avec papa. Il divorce. Mon père obtient la garde. Je ne verrai ma mère que de temps en temps le week-end. Me voilà sans maman pour me lire des histoires. Sans maman pour me faire des câlins. Un héros, mon père. Parce qu'il travaille, et pas qu'un peu. Il nous dépose à la garderie de l'école à 8 heures, un petit baiser furtif. Le soir, une nounou vient nous chercher. Il passe nous prendre, il court vers la cuisine. Et là, il n'ouvre pas des boîtes de raviolis. Il fait des omelettes, des salades composées. Et le week-end, on va à la piscine, on fait du ski nautique. À faut le suivre, hein. Il nous pousse à nous surpasser dans l'effort. Ma vie ne tient qu'à un fil, mais il veut qu'elle soit aussi riche que possible. Je fais encore pipi au lit. Eh bien, papa a mis ses talents d'ingénieur à mon service. Il a fabriqué un détecteur d'urine. Un petit carré en métal cousu dans mon slip, relié à un spot. À la première goutte, la lumière m'éblouit. Et après, il le perfectionne, hein, il le relie à ma chaîne Hi-Fi. Un petit pipi et la musique se met en marche. Je ne vois pas beaucoup ma mère. Le week-end, de temps en temps, elle habite un petit studio. Alors avec ma sœur, on dort à 3 dans son grand lit. Oui, on passe de bons moments ensemble. Mais c'est éphémère, c'est superficiel, ça ne me marque pas. Il y a une nouvelle personne dans ma vie, Hélène. La première fois que je la vois, c'est à un barbecue à la maison. Je cours direct chez les voisins.
Ça y est, papa a trouvé une nouvelle femme.
Elle emménage à la maison et elle devient notre mère de substitution. Et avec papa, il me donne une demi-sœur, Laura. C'est à peu près à ce moment-là, j'ai dans les 12 ans, qu'on installe Internet à la maison. Et un jour, je prends mon courage à deux mains et je tape « mucoviscidose ». Et là, je tombe sur des forums de discussion. Et c'est là que je réalise que ma maladie tue, que je vais mourir. D'un coup, je perds ma naïveté. Jusque-là, je n'avais pas réalisé. Je vais mourir demain. Mais en vérité, je n'en crois pas un mot, hein. Je me sens plus fort que la maladie. L'hiver, quand je me mets à tousser, c'est terrible. Ma poitrine se fend, c'est angoissant. Je prends jusqu'à 30 médicaments par jour. des qui me donnent envie de vomir, des qui me font saliver. Je fais aussi de la kiné, 20 minutes le matin avant l'école et 20 minutes le soir après l'école. Et puis j'inhale des aérosols deux fois par jour. Me battre contre la muco me prend au minimum 2 heures par jour. Vers mes 15 ans, mon état se dégrade. On passe aux cures d'antibiotiques par injection. Ah ça c'est magique, hein. C'est comme si on passait un coup de Karcher dans mes bronches. Les infections se volatilisent, mes poumons renaissent. Je suis libéré. Mais peu à peu, à la même époque, je deviens diabétique. Je me fais tout seul des piqûres au doigt pour mesurer mon taux de sucre et après, des injections d'insuline. Un médicament de plus. Oh, rien de dramatique, hein. Maintenant me voilà en terminale, face à un choix cornélien. Est-ce que je dois profiter, c'est-à-dire vivre chaque jour comme si c'était le dernier, ou alors construire, faire comme si tout était normal, passer des diplômes, alors qu'il y a très peu de chances que je travaille un jour. C'est pas facile à résoudre ça. Mon père me pousse évidemment, mais moi je traîne des pieds. Je suis obsédé par la mort. J'ai peur de mourir. Et donc je redouble ma terminale. À quoi bon avoir des bonnes notes? Être bon élève? Ça ne me maintiendra pas en vie, puisque ma vie sera courte, autant qu'elle soit intense. Alors je m'engueule avec mon père.
C'est pas toi qui vas te retrouver bientôt, le thorax ouvert en deux, pour tenter de rester en vie. Hein? C'est pas toi?
N'empêche que j'ai mon bac, et qu'après mon bac, j'entre dans un DUT en génie électrique. Je m'aimais pas dans ceux de mon père ingénieur, et d'ailleurs dans la foulée, je rentre à l'INSA, l'Institut National des Sciences Appliquées. Moi aussi, je serai ingénieur. Mais assez vite, je perds mon souffle, et avec mon énergie, mon enthousiasme, la maladie est en train de prendre le dessus. Doucement, mais sûrement. Mais mon père, comme toujours, fait comme si de rien n'était. On part en vacances au ski, comme d'habitude, à Serre-Chevalier. Le premier jour, je me lance en haut d'une piste. Au bout de 50 mètres, je peux plus respirer. J'étouffe. Je passe des nuits entières à gamberger. S'il ne me reste, disons que, 3 ou 4 ans à vivre, est-ce que je dois continuer à faire semblant? Le chanteur Grégory Lemarchal de la Star Academy.
J'ai jamais eu les pieds sur terre.
Atteint lui aussi de la mucoviscidose et mort il y a quelques mois. Il avait 24 ans.
J'en ai 23. Je suis sous perfusion 24-24. Mon corps est en train de m'échapper. Je n'ai plus que 2 options. Mourir ou une greffe. De nouveaux poumons.
Dodo l'enfant.
Alors en attendant un donneur, on me prépare. Il faudra m'ouvrir en deux. On m'explique comment ça va se passer. On me fait des tests. Et puis un jour. Bien, Jonathan. Vous êtes inscrit sur la liste de transplantation. Maintenant, il faut attendre. Attendre. En moyenne, entre 7 et 9 mois. Et les mois passent. Et je suis toujours perfusé en permanence. Et tous les jours, sous oxygène. À chaque coup de téléphone, mon cœur s'emballe. Le 13 juin 2008. C'est un numéro privé.
Allô?
Monsieur Drutel, il y aurait potentiellement un greffon pour vous. Il faut venir à l'hôpital immédiatement.
Je vais à l'hôpital, on me prépare et puis...
Je suis désolé, monsieur Drutel. Les poumons ne sont pas bons. Vous pouvez rentrer chez vous et boire une bonne bière.
Trois jours après... C'est reparti. Prise de sang, douche à la bétadine, rasage, brancard. Mes parents m'embrassent une dernière fois. Ils me touchent, ils me caressent. Et me voilà au bloc. Je vais vous placer un masque à oxygène sur le visage. Ok ? Vous comptez jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ça dure 6 heures. Et après, je fais un œdème, classique. Il me faut une longue semaine pour entrouvrir les yeux. Il y a eu des complications. Et puis on m'extube. Mais je m'étouffe. Alors on me réintube. La troisième semaine, je suis agité. J'arrache les tuyaux. Je suis pris d'hallucinations. Je vois des gens avec des têtes d'animaux. Et il y a des poissons dans ma chambre. Alors ils m'attachent à mon lit. Mes poignets me font mal. Ils mettent plusieurs jours à comprendre que c'est le cocktail de médicaments post-greffe qui me fait délirer. Et après, les complications s'enchaînent. J'attrape un staphylocoque doré et c'est reparti pour les antibiotiques. En 3 semaines, je suis passé de 54 à 41 kilos. Le kiné veut me faire marcher. Je pose le pied par terre, je m'écroule sur lui. Et je dois tout réapprendre. Tout. Manger, déglutir, aller aux toilettes, me laver tout seul. Mais au bout de 3 semaines, je respire. Sans encombre. Ça faisait un moment que ça ne m'était pas arrivé. Je quitte l'hôpital, plein d'espoir. Je vais dans un centre de rééducation, en Ardèche. Pas longtemps. Mon état se dégrade. 3 jours plus tard, on me renvoie à l'hôpital. Il y a un problème. Mes poumons sont en train de se nécroser. Alors on me met dans les mains d'un ponte du CHU de Saint-Étienne qui tente un truc que jusqu'ici, il n'a pratiqué que sur les malades atteints d'un cancer du poumon. Mais il n'y a pas le choix. Il s'agit d'aller poser dans le poumon une armature métallique couverte de silicone, une prothèse pour dilater les bronches. Pour l'instant, je suis sauvé. Et je rentre chez moi. Et là, je tente de reprendre le cours de ma vie. Je suis toujours inscrit en école d'ingénieur. Je le veux, ce diplôme. Alors à la rentrée, j'y vais. Mais je tiens 2 jours. Je suis épuisé. Je peux pas faire comme si tout allait bien. Je me mets à tousser. Et là, on pense que c'est un rejet, mais non. Ça n'en est pas un. C'est pire. C'est une infection sur les points de suture de mes bronches. Mon pronostic vital est engagé. Et là, mon père, il me l'a dit plus tard. À ce moment-là, il pense enterrement. Il pense pierre tombale. On m'a trouvé un aspergillus dans les poumons. C'est un champignon virulent. Il n'y a qu'une seule solution. Une deuxième greffe. D'autres poumons, mais pas que. Pour me donner toutes mes chances, il est maintenant question de me transplanter des poumons et un cœur. Alors que le cœur, le mien, va très bien. Les 2 organes viendront du même donneur. Le 25 décembre 2008, j'entre sur la liste des malades en attente d'organes. 2 jours plus tard.
Monsieur Trudel, hôpital Louis Pradel. On a un cœur poumon disponible pour vous, venez.
Hôpital, douche de bétadine et puis... Ben non, finalement, il n'y a plus de greffe disponible. Retour sur la liste d'attente. Ce que je fais en attendant, j'écris des petits mots à mes proches. Un petit mot pour toi, mon petit papa. Tu m'as toujours dit que le principal dans une vie, c'était de vivre heureux. La mission est accomplie. Je pense que rendre heureux son fils pendant 24 ans n'est pas donné à tous les papas. Coucou Laurette. Excuse-moi d'être parti si tôt. Dis-toi que je suis enfin libre de tous ces soins et que là où je suis, je ne souffre plus. Lundi 16 août.
Monsieur Drutel, c'est votre chirurgien, le professeur Tron. On n'arrivait pas à vous joindre. Il y a peut-être un cœur-poumon pour vous.
Oh, enfin !
Hôpital, Bétadine, et autour de mon lit, toute la famille et tous mes amis. 17h15.
Monsieur Drutel, dans quelques minutes, nous partons pour le bloc. L'équipe est prête. Les greffons aussi.
Ma sœur, ma mère et ma cousine poussent mon brancard jusqu'à la dernière limite. Le chirurgien arrive.
Alors, Jonathan, que diriez-vous d'une grande croix au milieu de votre poitrine?
J'ai une chance sur deux de m'en sortir. Minuit. D'un coup, les machines s'agitent. Affolement général. Un drain planté dans ma poitrine saigne. Hémorragie au niveau du cœur. Le chirurgien parvient à colmater la brèche. Ouh. 48 heures plus tard. Vous entendez 48 heures. J'ouvre les yeux. Et la première chose que je fais, c'est de m'extuber. Et là,
je respire. Je respire comme je n'ai jamais respiré. Ça n'a rien à voir avec la première fois.
Je sors de l'hôpital début septembre et écoutez bien, 3 jours plus tard, je fais du ski nautique. C'est ma manière de dire que désormais, j'irai bien. Et à la rentrée suivante, je suis de retour sur les bancs de mon école d'ingénieur. Je le veux, ce diplôme. Et j'intègre une classe où personne ne me connaît. Eh oui, les autres ne m'ont pas attendu. Et pour une fois, je vais tout droit jusqu'au bout. Me voilà ingénieur. Quelle revanche ! Et dans la foulée, je décroche un CDI, je grimpe les échelons et en 2 ans, je me retrouve manager dans mon bureau d'études. Ce qui m'arrive après, ça je ne sais pas si vous allez comprendre. La vie m'ennuie. Je n'ai plus de but. J'ai plus d'envie. Je ne tousse plus. Je respire à plein poumon. Et pourtant, je ne vais pas bien. Je n'ai plus rien à combattre. J'ai tellement été dorloté, chouchouté pendant tout le début de ma vie. Je me retrouve seul. Je me sens abandonné. J'ai vu sur Internet que c'est caractéristique des enfants atteints de maladies chroniques. Ils appellent ça l'égoïsme narcissique. Ce qui va me sauver, c'est une drogue. Le sport. Je commence par la course du cœur, un relais de course à pied entre Paris et la station de ski des Arcs. J'enchaîne avec le mont Ventoux, en vélo, 22 km, jusqu'à 1900 mètres d'altitude. Et à l'arrivée...
C'était super, Jonathan. T'as vu, t'es arrivé.
On me tombe dans les bras. On m'embrasse. Je retrouve enfin l'attention que j'avais perdue. Les bienfaits d'être entouré. Mon prochain défi, c'est le marathon de Paris. J'ai 7 mois pour me préparer. Ou changer d'avis. Le challenge est excitant, mais je ne sais pas si j'en suis capable. Et les médecins non plus d'ailleurs. Est-ce qu'un malade de la mucoviscidose, double transplanté cœur-poumon, peut terminer un marathon? Pour eux, je serai un cobaye. Quand je commence l'entraînement, je ne peux pas courir plus de 10 km. Un marathon, c'est 42. Mais plus je m'entraîne, plus je suis en forme. Je ne pense plus qu'à ça. Les progrès sont spectaculaires. Le jour J, mon ami Mike court à côté de moi avec le drapeau de l'association Vaincre la mucoviscidose. À partir de 35 km, j'alterne marche et course. Je transpire 3 à 5 fois plus qu'une personne normale. Les gens crient
« Allez Jonathan ! Allez Jonathan !»
Ça me transcende. Le passage de la ligne d'arrivée est grandiose. Quel cadeau pour mon père qui a aujourd'hui 60 ans. J'ai trouvé ce que je veux faire de ma vie. Je veux accomplir des exploits pour prouver que rien n'est impossible. Alors j'enchaîne avec un autre défi. Paris-Saint-Malo en vélo en 3 jours. 150 km par jour. Et après, mon objectif est de faire des triathlons. Et donc je me lance dans un sport que je ne maîtrise pas du tout. La natation. Mon Dieu que c'est dur. Je bois la tasse pendant des semaines. Mais je me bats encore et toujours. Et aujourd'hui, je me lance dans le défi le plus fou de toute ma vie. L'Ironman de Nice. 3,8 km de natation. Enchaîné avec 180 km de cyclisme. Et pour finir, un marathon. Dantesque! Je prends contact avec les organisateurs. Oui, vous comprenez. J'aurais besoin d'être accompagné au cas où je me sentirais mal. Oui, je sais, le règlement l'interdit, mais...
Vous vous rendez compte ce que c'est qu'un Ironman, monsieur?
Oui, j'ai fait le dernier Natureman. Et j'ai terminé. Hein.
Vous avez fait le Natureman? Banco, je vous inscris. Et vous pourrez être accompagné.
Je n'en ai même pas parlé à mes médecins. Et je ferai cette course, que ça leur plaise ou non. Je me prépare au rythme de 20 heures de sport par semaine. Pour me préparer, je cours le demi-Ironman de Barcelone. Et arrive le grand jour, le 24 juin 2018. J'ai du mal à me détendre. Mes orteils touchent l'eau tiède de la mer. C'est bon, je suis en forme. On m'aide à sortir de l'eau, je tremble. J'ai froid. Je prends le temps de bien me sécher et c'est parti pour 180 km de vélo. Ma bouche est pâteuse. Je trouve mon rythme. Je dois aller jusqu'au bout. Je m'arrête faire pipi. Voilà le col de Vence, c'est le dernier grand col. Je suis à bout de force. J'arrive à la promenade des Anglais, il est 17h30. Si je veux la médaille, il me reste 6 heures pour boucler le marathon. Les 10 premiers kilomètres sont faciles. Et puis la nuit tombe. Je me bats. Je ne lâche rien. Je suis à 5 kilomètres de l'arrivée. Je marche. Je cours. 100 mètres de l'arrivée. Je fends la foule. Quand on me passe la médaille de l'Ironman autour du cou, je suis euphorique. Et je pense à ces deux inconnus si précieux. Mes deux donneurs. Cette victoire... Et pour tous ceux qui se sont battus pour que je reste en vie. Voilà donc pour cette incroyable histoire que nous allons débriefer avec vous, Jonathan Drutel. Je rappelle que je l'ai tiré du livre que vous éditez chez Mareuil, Iron Man, le récit au fond de vos 34 années de vie de ce défi dont vous avez triomphé. Je peux vous faire une remarque, la vraie normalité. Celle qui vous ferait passer définitivement du côté des gens qui me ressemblent. Ça serait d'apprendre à glander, Jonathan.
ça dépend comment on voit les choses.
Vous ne savez pas glander.
Non, je pense que j'ai ce besoin-là, comme j'essaye de l'expliquer un petit peu dans le livre. J'ai toujours eu quelque chose contre moi, à mon encontre, où il fallait que je me batte. Et sur ces épreuves sportives, je me bats finalement pour arriver jusqu'au bout. C'est pas simple, quoi. Je vais très bien, mais j'ai quand même une capacité respiratoire aujourd'hui qui est mine de rien inférieure à la normale. Un cœur qui ne fonctionne pas tout à fait normalement. Il faut pallier un petit peu à ces, c'est pas des déficiences, mais des anormalités finalement. Donc ça me fait du bien et ça me permet de continuer à vivre, à m'épanouir. Donc j'aime bien ce genre de choses.
Hein. Il y aurait un autre défi, ça serait de donner la vie, de la continuer.
Ouais, ça peut être un autre défi, mais...
Vous êtes porteur du gène de la mucoviscidose.
Exact.
C'est un risque, mais détectable.
C'est un risque détectable. Il y a d'autres choses derrière la maladie. Voilà, il y a des choses à prendre en considération. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément d'actualité.
Vous ne vous sentez pas durable?
C'est une bonne question. Je ne vois pas les choses comme ça, en fait. Je ne me pose pas trop ce genre de questions. Je pars du principe qu'aujourd'hui, je suis là. Il y en a plein qui auraient misé plus sur mon décès que ma survie, bah, ces gens-là, je les ai fait mentir. Et certains de mes potes m'ont toujours dit, de toute façon, tu vas tous nous enterrer. Donc en gros, c'est...
Mais vous le voyez pas comme ça.
Tu es immortel, Jonathan, vas-y.
Mais vous ne le sentez pas comme ça.
Je me pose pas ces questions-là, en fait.
Vous pensez pas à la retraite, par exemple?
Non, je vais pas si loin, je pense pas à la retraite.
C'est dans clair. 30 ans à peu près, quoi.
Ouais, ouais, mais qui dit que je serai là ou pas là, personne, en fait.
Le risque, donc, c'est quoi aujourd'hui? Le rejet de la greffe?
Pas forcément le rejet, il y a plusieurs difficultés derrière, il peut se passer plein de choses. Le rejet en est une, mais plus on avance dans la vie avec la transplantation qui est parmi nous, finalement, le nouveau greffon qui nous appartient, moins les risques de rejet sont grands. Plus il diminue, par contre il y a d'autres choses, c'est pas une science exacte, on le sait très bien, hein. Donc combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand je me suis fait transplanter, la transplantation cardio-pulmonaire avait 20 ans, et je ne sais pas, il me semble qu'il est toujours en vie aujourd'hui, mais il y avait une personne qui avait 20 ans de greffe, donc qui datait de l'époque. Aujourd'hui les soins sont bien mieux maîtrisés, donc je pense que j'irai bien au-delà de 20 ans de transplantation.
Mais vous n'êtes pas sûr, et c'est pour ça que vous ne glandez pas, en fait.
C'est aussi une des raisons, il faut profiter. Mais comme tout à chacun, je pense qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, donc il faut profiter du moment présent.
Je voudrais qu'on reprenne l'histoire au début, Jonathan, à cet épisode sur lequel d'ailleurs vous ne vous attardez pas, mais qui moi m'a bien intéressé. C'est ce moment où votre maman a un pressentiment que vous attribuez, vous, à l'instinct maternel. C'est-à-dire, vous venez de naître, elle vous a dans les bras, et elle sent qu'il y a un truc qui cloche. C'est étonnant, ça, parce qu'en vérité, elle ne sait rien.
En effet, je saurais pas trop quoi vous dire là-dessus. Par contre, on parle souvent de l'instinct maternel.
C'est d'autant plus intéressant qu'elle ne l'a pas eu après, l'instinct maternel. Donc, à ce moment-là, elle a eu une intuition, un truc assez dingue.
Bien sûr, et puis ça fait partie du jeu. Il y a certaines personnes qui se rendent compte des choses. J'étais un enfant qui était plutôt pâle, assez moite. Enfin, il se passait des choses assez. J'étais pas comme le premier enfant, comme ma sœur Sabine, qui n'était pas du tout comme
moi.
Non,
mais moi, je trouve qu'un bébé, c'est toujours bizarre. Et elle a su qu'il y avait un problème, quand même.
Ouais, c'est vrai.
Faut mettre ça à son crédit.
Bien sûr, bien sûr.
On sent que du chemin a été fait, que aujourd'hui vous avez pardonné, sans doute plus souffert jeune.
Ouais.
Et qu'aujourd'hui, vous avez fait du chemin vers elle, dans la compréhension.
Oui, mais je pense qu'on s'est tous retrouvés petit à petit. Je pense que là...
Elle est là au moment des greffes.
Hein. Bien sûr. Petit, je pense que moi, je m'en rendais même pas compte, parce qu'on est tout petit, donc il y a des choses qu'on se souvient plus, c'est dans notre inconscient, on l'oublie. Alors certes, forcément, ça a été très dur pour moi quand j'étais petit, mais je n'ai plus autant de souvenirs pour vous dire, j'étais trop petit, quoi.
D'autant que votre père, il faut le suivre. Et on peut comprendre que quelqu'un ne soit pas capable de suivre un type qui trace tout droit comme ça.
Bien sûr, mais c'est ce qui a été un peu la force, finalement, c'est que moi, je me suis jamais considéré comme quelqu'un de malade, quoi. Jusqu'à, clairement, l'apparition d'Internet, où j'ai commencé à comprendre des choses. Mais sinon, j'étais, entre guillemets, traité comme n'importe qui, avec des visites à l'hôpital, mais on mettait pas l'accent dessus. Du coup, j'étais quelqu'un de complètement normal. Moi, c'est ce que je ressentais. Donc, ce qui m'a, je pense, aussi aidé derrière à traverser toutes ces épreuves. Mais les médicaments s'enchaînaient comme ils devaient s'enchaîner. Et puis, pour moi, ça me semblait quelque chose de totalement normal, finalement.
C'est donc vrai que jusqu'à 12 ans, jusqu'à ce jour où vous tapez mucoviscidose sur Internet, vous ne savez pas.
Je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne me rends pas compte de la gravité de la maladie. Clairement.
Le dictionnaire, vous ne l'avez pas lu?
Non. J'étais pas très dictionnaire.
Vous n'étiez pas très dictionnaire.
Mais non, je l'ai pas lu du tout.
Et ils ne vous disent pas?
Non, on ne parlait pas des conséquences graves que pouvait avoir la maladie derrière. Je pense que c'était mieux de pas en parler. On allait vivre avec ça, et puis on allait faire en sorte que je continue à vivre avec ça. C'est ce qui s'est passé.
Quand on raconte votre histoire, et qu'on s'intéresse à votre papa, ce héros, comme vous le dites, au début on est un peu inquiet. On se dit, il va se cracher. À un moment donné, il va se cracher parce que il veut tout assumer.
Bien sûr.
Assumer votre maladie, l'éducation de votre sœur, son boulot d'ingénieur, ses voyages à l'étranger, ça j'ai pas eu le temps de raconter, mais il y a plein de moments où il part à l'étranger en mission au Japon. Enfin, il a un gros poste à responsabilité. Et il y a un moment où on est rassuré. C'est quand il rencontre Hélène. On se dit, il s'occupe un peu de lui.
Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, mais encore une fois, c'est là on a moi j'ai le recul aussi pour comprendre ces choses-là. Mais à l'époque, je suis petit, donc je m'en rends pas forcément compte. Mais en effet, je pense que c'est ce qui a amené une stabilité chez mon père et qu'il a retrouvé une autre facette de la vie qu'il avait perdue, qui a rendu un certain équilibre, qui était important, ouais, à la fois pour me soutenir parce que les étapes allaient être encore de plus en plus difficiles, et puis pour lui. Hein.
Ah bah parce que votre père, à un moment donné, on se dit, il fait tout ça pour Jonathan. Toute cette énergie qu'il dégage autour de lui, là, c'est samedi matin, on se lève très tôt, on part faire du basket, de la piscine, et les week-ends au ski, et les vacances à machin, etc. Enfin, c'est une sorte de vie à 100 à l'heure.
Bien sûr.
Et en vérité, il est comme ça. C'est-à-dire, vous n'auriez pas été malade, vous auriez quand même été debout très tôt le week-end pour aller faire des activités. Il a besoin de bouger, quoi.
Ouais, je pense que quand même, la maladie l'a fait, a empiré la situation, l'a fait devenir encore plus ivre de la vie, finalement, à vouloir profiter. Je pense que derrière, il y avait cette volonté de vouloir faire plein de choses, mais la maladie, ma maladie, l'a forcément...
Ça l'a décuplé, quoi.
Ça l'a décuplé, il voulait profiter des instants présents le plus possible, quoi.
Mais heureusement qu'il s'est occupé aussi un peu de lui.
Bien sûr, hein.
Il y a même un moment où on se dit, il a sacrifié sa carrière, parce que vous, évidemment, vous racontez pas tout, c'est 34 ans de vie, il y a plein d'impasses. Et à un moment, on dit, tiens, ah bon, et il continue à aller en voyage au Japon, donc c'est que il n'a pas sacrifié sa carrière à côté de ça. Il est un ingénieur dans l'automobile de haut niveau.
Bien sûr, après, il a fait des choix, il y a des expatriations qu'il n'a pas acceptées, voilà, pour des raisons purement médicales aussi, parce que j'avais besoin de rester avec ces médecins-là qui me suivaient, c'était important. Les soins dans d'autres pays, on a la sécu en France qui est quand même quelque chose de super bien, et qui nous permet d'avoir des soins quasiment gratuits, et pour des personnes... Enfin, qui ont des pathologies aussi lourdes que je pouvais avoir.
Mais du coup, l'Ironman, il est déjà là au moment où vous faites toutes ces activités, où ça ne s'arrête jamais, ces vacances à faire le tour du monde, etc. L'Ironman est déjà là.
Ouais, c'était une vie très rythmée.
C'est lui qui vous a drogué.
C'était une vie très rythmée, forcément.
Ouais.
À 100 à l'heure, toujours faire tout en même temps. Et c'est comme ça que je suis aussi aujourd'hui, que ce soit dans le boulot ou autre, il faut que j'ai l'esprit qui soit occupé 24 heures sur 24, avec de multiples projets professionnels, personnels. C'est ce qui me tient en haleine.
Je voudrais qu'on parle deux secondes de ce moment de l'adolescence où le doute est là. Dans votre histoire qui est totalement positive, qui trace tout droit, qui construit, qui s'accroche, il y a un seul moment où vous vous dites, je vais peut-être lâcher, c'est-à-dire profiter des années qu'il me reste à vivre. C'est l'adolescence.
Ouais, c'est un moment où souvent, de toute façon, pour des personnes normales, il se passe des choses aussi où les gamins deviennent assez virulents.
Ouais.
On ne sait pas trop les raisons, les hormones sûrement, enfin plein de choses derrière.
Et là, vous avez un doute.
Moi, c'est bien sûr que c'est différent, parce que la maladie, elle commence à taper très fort. On se rend compte derrière que je commence à être suivi dans des services où les gens sont gravement affectés, aux limites de la mort, quoi. Et je suis très conscient et je remarque très bien qu'il y a des patients qui partent. Donc voilà, on sait que mes chances de survie, elles sont là, mais il y a des risques aussi que je m'en aille. Donc à un moment donné, on se dit, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Moi, j'étais en train de faire des hautes études, en école d'ingénieur, etc.
Est-ce que ça vaut la peine?
Est-ce que ça vaut la peine de continuer à faire ce genre de choses, à être tous les soirs en train de travailler derrière son écran ou bouquiner ses livres techniques, ou finalement aller rigoler, partir voyager et puis profiter un petit peu peut-être des dernières années ou des derniers mois qui me restent à vivre. Et puis, je pense que c'est... Je réfléchis beaucoup à tout ça. Il y a beaucoup de crises de colère et de discussions assez houleuses avec mon père surtout, parce que lui, en aucun cas, il veut que je lâche.
Vous baissiez les bras.
Bien sûr. Et voilà, d'un côté, il y a cette compréhension, mais en fait, dans ces discours, il n'y a jamais de la compréhension, quoi. Je le sais intérieurement qu'il me comprend, mais il ne me le fait pas, il ne me le montre pas, en fait.
Ça n'est pas manifeste.
Voilà, pour lui, c'est clair qu'il n'y a même pas à réfléchir, il faut continuer, quoi. Voilà.
Marche ou crève, pour le coup.
Et, mais dans l'idée, il a raison, parce que je me suis toujours dit, si j'arrête tout et que je me retrouve 10 ans après sans rien, je vais faire quoi de ma vie? Je m'en mordrai les doigts, finalement. J'avais un diplôme d'ingénieur à portée de main. Si je pars, j'ai plus rien. Qu'est-ce que je vais faire, quoi? Et donc, c'est ce qui me maintient en vie, ce qui me dit, je vais continuer à bûcher, et puis on va garder le positif, on va dire qu'on va, on va rester en vie, on va y arriver.
Sans l'énergie que insuffle en permanence votre père et l'exigence qu'il a, vous ne gagnez pas la bataille.
Ouais, alors je pense qu'il y a mon père, mais c'est toute la famille derrière. Hein.
Parce que techniquement, c'est les médecins qui réussissent le coup de la double transplantation.
Techniquement, c'est les médecins.
Ouais. Voilà. Mais est-ce que là-dessus, sans votre père, ça marche pas?
Il faut un entourage très proche. Il faut énormément soutenu. Si on est tout seul dans la nature avec cette mucoviscidose qui nous tape dessus, on abandonne très vite, c'est pas possible. Donc j'avais à la fois des amis merveilleux qui me faisaient complètement oublier la maladie. Je sortais en soirée avec mes perfusions au bras et je revenais le matin, des fois dans des états pas très corrects. Et l'infirmière repassait le matin à 5h du mat, me rebranchait d'autres perfusions. Voilà, on a profité comme une personne normale finalement. Et c'est ça qui était bon, quoi. C'est-à-dire qu'on fait comme si de rien n'était. Et je pense que c'est ce qui permet de continuer. Et tout ce soutien-là, si je ne l'avais pas eu, forcément, je ne serais plus là aujourd'hui. Ça ne passe pas. Ouais.
Ça passe pas. L'hypothèse de la greffe, elle existe depuis quand? Parce qu'elle apparaît tout d'un coup, dans votre récit. On a l'impression que, avant vos 15 ans, en gros, le sujet n'a jamais été abordé.
Non, c'est exactement ça. Le livre retrace complètement la vérité. Il n'y a rien qui n'est.
On vous a jamais dit avant, il est possible qu'avec une greffe.
On n'en parle pas, en fait. Parce que la greffe, il est possible, certes, mais c'est quand même une intervention à risque, quoi.
Ouais.
Quand on passe la porte du bloc, on ne sait pas si on en ressort. Hein.
Mais elle intervient au moment où, de toute façon, le risque de mourir est là.
Exact.
En gros, tellement proche.
En gros, le risque est à la fois de mourir si on n'obtient pas la greffe, mais le risque de la greffe aussi est très important derrière. Ils partent du principe, du moins à mon époque, que quand on est inscrit sur une liste de transplantation, il nous restait à peu près un an à vivre. Donc il faut que ça soit quand même assez rapide dans l'idée. Hein. Donc voilà, on y va vraiment au dernier moment. Mais là encore, c'est un jugement des médecins. Il ne faut pas y aller trop tard pour ne pas être trop affaibli, mais pas y aller trop tôt non plus, parce qu'il y a des risques derrière. Donc ça, c'est à eux de jauger, et ça, on leur fait confiance derrière. Quoi, hein.
La dépression qui suit... la deuxième greffe qui est un moment étonnant, c'est aussi un moment de faiblesse. Il n'y en a pas beaucoup dans votre vie. Elle est intéressante parce qu'en fait, on est dans cet égoïsme narcissique dont vous parlez. On ne s'occupe plus de vous et c'est dur à vivre.
J'ai mis longtemps à comprendre.
À le verbaliser, ça, oui.
À le verbaliser. Pour moi, c'est important de poser des mots sur ce qui se passe, de comprendre finalement pourquoi je suis dans un état pareil, quoi. Comment je peux être si con, en gros. Mais voilà, je lis beaucoup...
Si con ou si faible? Vous n'aimez pas être faible?
Ouais, c'est vrai, mais comment on peut être dans cet état-là, quoi?
Ouais.
Si fébrile, finalement, ouais. C'est ça. Et voilà, je cherche beaucoup d'informations et je comprends petit à petit que tout ce que j'ai vécu pendant mon enfance m'amène à cette fragilité aussi intérieure que j'assume finalement complètement, qui fait partie de ma vie.
Et l'Ironman, c'est le retour de l'égoïsme narcissique. Enfin, l'Ironman, le marathon de Paris et tout le reste.
Ouais, peut-être, on peut... Je sais pas.
C'est se retrouver soi-même au centre, quoi.
D'un côté, c'est vrai que ça me permet de nouveau avoir un petit peu la lumière sur moi, mais le but est tout autre derrière. C'est finalement ce qu'aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est...
Montrer
que j'arrive à être utile, en fait.
Ouais.
Utile pour la bonne cause, pour donner... aux gens de l'espoir et ça c'est génial, quoi. Je pense se sentir utile, c'est la plus belle des choses.
C'est un livre à lire, en tout cas, j'en rappelle le nom, Iron Man, aux éditions Mareuil. C'est un livre à lire pour tous ceux qui cherchent des raisons d'avancer. Là, il y a des rails, il y a un guide, il y a une lumière qui vit au fond du couloir. C'est un livre magnifique. Merci beaucoup, Jonathan Grutel, d'avoir accepté de me confier un bout de votre vie pour que je la raconte.
Merci.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.